RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Guinée. Retour sur ce 28 septembre 2009, ce meeting de l'opposition qui tourne au drame. Des milliers de participants se regroupent dans un stade pour dire non à la candidature à la présidentielle du chef d'État de transition d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara. Des militaires, des hommes en civil entrent par le portail. Ils frappent, ils tuent, ils violent. Au moins 150 personnes sont mortes, des centaines de femmes violées et de nombreux manifestants. Sont portés disparus. Il y a cette matinée sanglante, mais les heures et les jours qui suivent le massacre au stade, les exactions continuent. Et 7 ans après, ces crimes restent impunis, les victimes restent traumatisées. À Conakry, grand reportage signé Coralie Pierret.
Au stade du 28 septembre, il ne reste plus aucune trace des événements de 2009. Comme si rien ne s'était passé, les infrastructures ont été repeintes et rénovées. Seuls quelques passants s'arrêtent dans les gargotes ou dans le café où se réunissent les fans de football. Monsieur Diallo était au meeting de l'opposition il y a 7 ans. Il retourne sur les lieux pour la première fois.
Toute la tribune officielle que vous voyez là, c'était plein. Il y avait l'enthousiasme, les gens chantaient, dansaient. Comme d'habitude, comme un meeting politique. Quand j'ai vu que les gens qui tiraient étaient cagoulés, j'ai su que c'est sérieux. Au niveau de la pelouse, il y avait déjà les bérets rouges qui étaient rentrés, qui tiraient, donc la foule fuyait. Certains tombaient de gauche, d'autres à droite. Le viol se faisait. C'était extraordinaire. On ne pouvait pas regarder.
Venez parce qu'il y a des militaires derrière nous, donc on va bouger un petit peu. Justement.
Moi, j'ai cherché à grimper à partir de murs jusqu'à accéder sur le toit d'une maison. Je ne pouvais même pas me lever. Ils ont appelé à la Croix-Rouge. J'ai entendu parler là-dedans que les victimes qu'on a envoyées à l'hôpital, on est en train de les extraire et les amener dans des directions inconnues.
Ça veut dire que ce n'est pas seulement à l'intérieur du stade qu'il y a eu des massacres?
Non, pas du tout. Les jours qui ont suivi, le 28 septembre, il n'y avait pas de tranquillité à Conakry. Les militaires faisaient ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Donc tout le monde était stressé. Personne ne le disait, arrête-toi. Personne.
Et là, on ne vous sent pas très tranquille, vous regardez un peu à droite à gauche.
Oui. C'est-à-dire, je ne veux pas comme... Même maintenant, quand on va te quitter, je vais me faufiler.
Comme Monsieur Diallo, les victimes sont encore terrorisées en évoquant ces souvenirs. Car ce lundi de 2009, la panique gagne Conakry. Des bérets rouges et des hommes cagoulés frappent, tuent, violent. Comme l'attestent ces 3 témoignages d'époque des manifestants qui se sont livrés au micro de RFI quelques heures ou jours après le massacre.
Ils ont fait appel aux bérets rouges, la garde présidentielle, le capitaine, comme on appelle Toumba Diakité, coordonnait les actions des bérets rouges. Ils ont rentré, commencé à tirer n'importe comment, tabasser. Ils avaient même des couteaux baïonnettes pour trancher les gens, violer les femmes en pleine journée.
Ce jour-là, au moins 150 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées.
Il y avait 2-3 militaires, j'ai attrapé une femme là-bas. Elle est en train de pleurer, pleurer. Je me dis que, comme vous n'êtes pas vos dadis, on va le tuer. Ils ont fait rentrer le fusil dedans. Ils ont fait rentrer même dans son sexe, ils ont tiré.
Au moins 109 femmes ont été violées.
Il faut voir les gens comme ils étaient. Tout le monde cherchait à sortir. Moi, j'ai pris le courage, je me suis engagée. Je me suis rencontrée avec le garde-corps de Dadis qui s'appelle Toumba, qui m'a frappée. Après, j'ai couru. Je me souviens, il y a un autre militaire qui avait le courrier sur sa tête. Il m'a pris, il m'a déshabillée, violée, il m'a frappé tout mon corps. Donc, je ne peux pas expliquer. Qui c'est que j'ai vu. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. Je ne peux pas expliquer. Ce que je sais, on m'a violé, on m'a frappé partout.
Ces 7 ans plus tard, au siège de l'AVIPA, l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, les préjudices ne sont toujours pas reconnus et tous sont impatients. Car il y a ce lundi sanglant, mais il y a aussi les jours qui ont suivi. En 2016, quelques exactions sont rapportées par des survivants, comme cette jeune femme qui a été kidnappée au stade et conduite jusqu'à un camp militaire, où elle a été violée et maltraitée pendant plusieurs jours.
On tirait des feux là-bas, tuait les gens, il y avait le coup de main. Je l'ai vu là-bas, une fille, on l'a oisée devant moi. Je ne peux rien dire. Jamais vu ça d'abord.
Il y avait plusieurs personnes, on vous jette dans un camion?
Oui, oui, l'air pick-up là. On nous a déshabillés complètement, la tenue, rien.
Et on vous a emmené où dans le pick-up?
Kankundara. En rentrant, j'ai vu le portail, je me suis retrouvée là-bas, c'est ici à Kankundara. Lorsque je me retrouvais à Donka, après 2 jours.
Après 2 jours, vous êtes retrouvée à Donka, donc à l'hôpital?
Oui, oui, oui. J'étais en coma 2 ou 3 jours. On nous a drogués là-bas, puisqu'on ne peut plus dormir. Ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas. Mais vous voyez ça, et ici, on nous a maltraités là-bas, le béret rouge. Et on m'a même frappé ici, ce matin. Chaque fois, ça me fait mal. J'ai fait crise, chaque fois, je fais crise, chaque fois, je fais crise.
Dans les camps militaires, certains hommes ont également été prisonniers, comme en témoigne ce rescapé. Avant sa captivité, il était au stade. En fin de journée, il est confondu avec un cadavre jeté dans un camion puis échappe à la fosse commune, creusée par les soldats dans un lieu qui reste jusqu'à présent inconnu. Ce témoin souhaite rester anonyme. Sa voix a donc été modifiée.
J'ai ramassé le corps. Comme moi aussi, j'étais comme un corps. Ils m'ont ramassé, ils m'ont jeté dedans, dans un camion. Ils ne comptaient même pas les prendre comme si c'était des morts justes. Ils me poussaient comme des singes. La nuit maintenant, ils ont creusé une grande fosse commune. Ils ont jeté les gens, jeté tout ce qui était dans le camion. La dernière personne qui est montée, il a mis la torche sur moi. Il dit, hé, il y a quelqu'un qui n'est pas mort. Je l'ai fait garde-vous. Ils m'ont ramené là où se trouvait la résidence du président.
Quelle était l'ambiance dans le camp? Il y avait de l'agitation? Il y avait beaucoup de gens dans le camp dans lequel vous étiez prisonnier?
Oui, j'entendais des cris. Il y avait d'autres familles aussi qui venaient chercher leurs enfants. Le lendemain, le matin, jusqu'à la nuit, les gens venaient. Un jour, le capitaine même est venu dire, mettez-lui là-bas. Ils m'ont jeté derrière la cour. Mais moi, je suis assis à côté, je suis toujours en sang. Le sang. C'est un fou. Ils m'ont pris comme un fou. Je suis fou.
Des victimes traumatisées, des femmes abusées, répudiées par leur famille et leur foyer, des stress, des dépressions, autant de conséquences contre lesquelles se bat l'AVIPA. Dans un bureau, quelques photos sont sur la table en guise de témoignage.
Elle est décédée par suite de...
du VIH qu'elle a reçu le jour du viol au stade. Dès qu'on s'est abusé d'elle, quelques mois après, elle a commencé de tomber malade. Et les examens ont prouvé la contamination du VIH-Sida. Et elle en est morte.
Voilà, et cette femme aussi, elle a été bastonnée sérieusement au stade. Vous avez vu sa corpulence. Et aujourd'hui, elle est malade par rapport à tous ces coups reçus. On vient même de me dire qu'elle ne parle même plus. Elle ne peut plus marcher.
7 ans après, les hommes et femmes présents au stade restent choqués et cherchent encore les réponses. Qui, comment ? Mais surtout, pourquoi?
Ce que je souhaite, ou alors ce que j'ai dans ma tête, c'est d'œuvrer pour qu'il y ait un jugement. Pour que vraiment les coupables de ces barbaries soient punis et que cette action ne se répète plus en Guinée. Et je vous dis, depuis 2009, c'est une seule fois que je suis rentrée au stade. De deux, quand je vois une foule Je suis terrifiée. Ça veut dire que j'ai des problèmes psychologiques, effectivement. Parce que ça, c'est ancré dans la tête. Quand je suis couchée, je fais le premier heure de sommeil, je me réveille, je ne dors plus. Je ne fais que penser, je ne fais que me rappeler de ceux qui sont morts dedans, des gens que je connaissais. Même un jeune frère était tombé dedans. Lui, il était mort. C'est après qu'on a retrouvé son corps. Et il y a des disparus. Des gens qui ont quitté leur famille, qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Et on n'a plus retrouvé leur corps. Est-ce qu'ils ont été tués? Les corps ont été amenés où? En tout cas, c'est des gens qui ont quitté leur famille, qui sont partis bel et bien dans le stade, mais qu'on n'a plus retrouvé de traces. On ne les a pas retrouvés parmi les morts et on n'a plus leurs nouvelles. C'est une question qui se pose, dont on n'arrive pas à trouver de réponse.
La présidente de l'association Asmaou Diallo se bat depuis 7 ans pour que les responsables soient jugés.
7 ans maintenant, on est toujours en attente de la justice. J'espère que si le procès a lieu en 2017, on peut effacer les peines passées. Parce que nous nous battons pour ça. Nous nous battons pour la vérité, pour la justice et pour la réconciliation. Et surtout la reconnaissance des victimes. Il a fallu ces massacres pour que le président Condé soit au pouvoir, qu'il soit élu démocratiquement. Donc, normalement, ils ne doivent pas oublier cela. Ils doivent revoir un peu en arrière. Il y a eu beaucoup de sacrifices en vie humaine.
Au besoin de justice s'ajoute la menace et la peur.
Nous risquons nos vies parce que nous ne sommes pas protégés. Nous sommes là en train de dénoncer. S'il nous arrive quelque chose, c'est juste pour nous faire taire, pour qu'on n'avance pas. Pourquoi 7 ans? Rien encore n'est fait. Évidemment, on a beaucoup travaillé avec la justice. Il y a eu 400 victimes qui ont porté leur plainte. Il y a eu des inculpations, il y a eu 15 inculpés. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore d'autres. J'estime que ceux qui sont responsables, ils ne veulent pas qu'on en parle. Voilà le problème. Parce que quand il y aura la justice, je pense que les langues vont se délier après. Mais d'ici là, tout est bloqué.
Parmi les personnes inculpées, il y a Moussa Dadis Camara, l'ancien chef d'État de la transition. Les juges d'instruction avancent, la phase d'enquête touche à sa fin. Pourtant, tous les présumés responsables n'ont pas encore été entendus, explique Maître Amidou Barry, l'un des avocats des victimes.
Nous avons souhaité que les médecins qui étaient à l'hôpital d'Onkanyacid, qui ont reçu les victimes, les femmes violées, les blessées, les disparus, les morts, que ces médecins-là soient entendus. Et aussi, il y a des personnes inculpées qui sont hors du territoire national. Nous souhaitons que les personnes là regagnent le pays pour que le procès se tienne. Parce que nous n'entendons pas aller à un procès dans lequel certains accusés ne sont pas là. Il faut que les personnes qui n'ont pas été entendues, certains chefs militaires, certains civils, responsables civils, que ces responsables-là soient entendus pour qu'on leur tienne un procès.
Parmi les personnes qui n'ont pas encore été entendues, vous pensez par exemple au général Sékouba Konaté qui était ministre de la Défense à l'époque?
Naturellement. Vous savez, dans cette affaire, si on a inculpé le chef de la junte, il faut que celui qui était ministre de la Défense au moment des faits soit aussi auditionné. Et il faut préciser que les événements du 28 septembre, ce n'est pas seulement le lundi sanglant du 28 septembre. C'est le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Dans certains camps, il y a eu des tortures, il y a eu des séquestrations, il y a eu des détentions et arrestations illégales. Il y a eu même des cas de viol. Il faut qu'on sache tout ça. Dans quel lieu, dans quel couloir, dans quel local les femmes ont été violées. Il y a des camions qui ont transporté des cadavres, il faut qu'on sache qui gérait ces camions. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que ces personnes soient entendues, qu'ils s'expliquent.
À cela s'ajoute le cas de l'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, Toumba, présent sur les lieux au moment des massacres selon des témoins, mais qui est aujourd'hui introuvable, sans compter les responsables civils et militaires de l'époque qui sont toujours dans les arcanes du pouvoir. La question de la responsabilité reste, 7 ans après, en suspens. Les crimes du 28 septembre toujours impunis, un grand reportage signé Coralie Pierret, réalisation Mathieu Salabert. Bonjour Coralie Pierret.
Bonjour.
On l'entend à la fin de votre reportage, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Hein. Qui sont les responsables de ce drame? Comment? Pourquoi? Certains responsables ont été inculpés, comme Moussa Dadis Camara, mais d'autres n'ont même pas été entendus par la justice.
Oui, effectivement, il y a d'abord le général Sékouba Konaté, ministre de la Défense à l'époque, et il y a aussi l'aide de camp de Dadis, Toumba Diakité, qui était présent au stade selon plusieurs témoins. Ces deux présumés responsables n'ont pas été inquiétés par la justice pour le moment. Et puis, il y a aussi les civils ou les militaires qui sont encore aujourd'hui aux responsabilités. Parmi eux, Mathurin Bangoura, ancien poids lourd du CNDD, le Conseil national pour la démocratie et le développement, le nom officiel de la junte au pouvoir au moment des événements du 28 septembre. Ce général a été nommé récemment gouverneur de Conakry, qui est un poste très important dans l'administration. Difficile donc pour les juges d'instruction guinéens de faire leur travail en toute partialité et sans entrave.
Et aujourd'hui, la phase d'instruction n'est pas terminée. Pourtant, le ministre de la Justice a promis à plusieurs reprises qu'un procès serait organisé bientôt. La date est sans cesse repoussée. Ça traîne. Alors, est-ce que les victimes ne commencent pas un peu à perdre espoir ?
Disons qu'elles commencent à s'impatienter. Ce qui est marquant, c'est le besoin de justice. Les victimes que j'ai rencontrées n'ont pas encore fait le deuil de ce qui leur est arrivé le 28 septembre 2009. Officiellement, il y a eu environ 150 morts, mais c'est sans compter les disparus. Des personnes qui étaient au stade, mais qui ne sont jamais rentrées chez eux. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Alors on sait que des rafles ont eu lieu dans certains quartiers, que des prisonniers ont été envoyés dans des camps militaires, et surtout que des fosses communes auraient été creusées par des soldats pour enfouir les corps pour peut-être amoindrir le bilan, même si à ce jour il y a certains indices concernant les lieux où se trouvent les charniers. Pour l'heure, aucun n'a été identifié officiellement.
On entend dans votre reportage un témoin qui évoque ces fosses communes et les prisonniers dans les camps militaires. 7 ans après, hein, un témoin visiblement encore très choqué.
Oui, ce manifestant a été confondu avec un cadavre et il a failli être enseveli avec d'autres corps. Et il est aujourd'hui complètement traumatisé. Ça a été difficile de le faire parler, mais une fois qu'il était lancé, ses idées étaient claires et son histoire fluide. Mais 7 ans plus tard, il se sent encore menacé. Il a peur qu'on le retrouve, qu'on lui fasse du mal s'il parle. Et il est le symbole du traumatisme laissé. Toutes les victimes rencontrées disent la même chose. Il y a les coups, il y a les meurtres par balles ou par armes blanches, et il y a aussi les viols, utilisés comme une arme ce jour-là. Une arme pour faire peur, une arme pour peut-être installer la terreur, pour asseoir une autorité, celle peut-être de la junte militaire de l'époque.
Et Guinée, les crimes du 28 septembre, toujours impunis. Votre grand reportage, Coralie Pierret, à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.